20 часов в Париже.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, pour un regard différent, parfois décalé, qui fait la richesse de votre radio sur l'actualité du monde. Ce soir, pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilac à propos de l'événement qu'est le sommet historique des deux Corées.
Mira.
Tae Hong Pham de la rédaction vietnamienne pour nous parler de l'expulsion de Vietnamiens des États-Unis.
Chinka.
Et Raphaël Moran de la rédaction en espagnol pour le chaos social qui règne actuellement au Nicaragua.
Buenas tardes, Philippe.
Bonsoir à vous tous. Mais avant cela, intéressons-nous à l'accord sur le nucléaire iranien. Avant la décision de Donald Trump d'en sortir ou non les États-Unis. Cette remise en cause inquiète les grandes puissances qui appellent au contraire à maintenir ce pacte. Alors, Raphaël Moran, cette renégociation est-elle réaliste?
Alors, selon un spécialiste de la région que nous avons interviewé, Luciano Sacara, qui est professeur au Qatar, la réponse est non, ce n'est pas réaliste pour plusieurs raisons. D'abord parce que la position radicale de Donald Trump pourrait pousser l'Iran à s'isoler diplomatiquement si les États-Unis déchirent cet accord sur le nucléaire. Des hauts responsables iraniens menacent déjà de sortir du traité de non-prolifération, ce qui mettrait fin aux inspections de l'Agence internationale atomique. Quant à l'accord en lui-même, on rappelle que l'Iran s'engage à ne pas développer son programme nucléaire en échange de la levée progressive des sanctions occidentales. Mais là encore, cette levée des sanctions dépend vraiment des États-Unis.
Pourquoi? Pour quelle raison?
Bien parce que si les États-Unis rétablissent certaines sanctions contre l'Iran, eh bien beaucoup d'entreprises occidentales, des entreprises françaises par exemple, qui ont des activités aux États-Unis, n'auront pas vraiment le choix. Elles devront s'aligner sur les États-Unis et éviter de développer des activités en Iran. Or, si Téhéran ne reçoit plus aucun des bénéfices économiques ou des investissements que les Occidentaux ont fait miroiter avec cet accord sur le nucléaire, eh bien les durs du régime, les radicaux du régime en Iran auront des arguments pour se retirer complètement de l'accord. Plus de bénéfices, plus d'accord, c'est compréhensible. Donc pour l'instant, Trump n'est pas allé jusqu'à rétablir toutes les sanctions contre l'Iran. Il faudra attendre le 12 mai pour connaître sa décision finale.
Que penser de la proposition de renégociation de cet accord?
Alors l'Iran ne paraît pas opposé d'emblée à un dialogue concernant son programme balistique. C'est un des nouveaux points qu'a évoqué Emmanuel Macron lors de sa visite aux États-Unis. C'est un point qui fait très peur à Israël, le programme balistique de l'Iran. L'Iran n'est pas non plus opposé a priori à parler de son influence régionale, mais pour que cette renégociation réussisse, il ne faudrait pas que ce projet de Macron et Trump passe pour de l'ingérence dans les affaires intérieures iraniennes.
Alors Hermine Roumilac, justement, quelle est la proposition faite par le président français?
Il y en a beaucoup, entre autres dans la proposition que Monsieur Emmanuel Macron, qui tentait de sortir d'une éventuelle impasse dans ce dossier épineux. L'une des principales différences entre celle de Monsieur Trump est d'éviter de discuter contre les pays occidentaux. C'est-à-dire, il a proposé plutôt d'engager une vraie négociation impliquant non seulement l'Iran et aussi les autres puissances, dont la Chine et la Russie, pour essayer de résoudre ce problème, les problèmes évoqués par Monsieur Trump. C'est-à-dire, il y aura plus de limites de temps imposées à Téhéran sur son activité nucléaire et aussi les implications de l'Iran dans plusieurs conflits régionaux. À part la Syrie, les États-Unis accusent l'Iran de fournir des missiles aux rebelles yéménites pour viser l'Arabie saoudite. Ce qui inquiète beaucoup les alliés des États-Unis, notamment l'Israël et les Arabies saoudites.
Alors, États-Unis, Israël, Arabie saoudite, quelles sont leurs réactions, Hermine?
Les propositions de M. Macron n'ont pas eu beaucoup de plus de succès que M. Trump, puisque Téhéran et Moscou ont tout simplement rejeté tout nouvel accord sur le nucléaire iranien. Donc le président iranien a contesté la légitimité d'un éventuel accord. Il a répliqué en demandant quels droits ont les États-Unis et la France de décider à eux seuls pour un accord signé à 7. Et quant à la Russie, ils ont répondu qu'il n'y aura pas d'alternatif de l'accord de 2015. Et si la Chine, qui est actuellement le premier partenaire commercial de l'Iran, n'a pas montré clairement sa position. Le chef de la diplomatie russe a parlé pour la Chine. Il a prévenu que la Chine et la Russie bloqueraient toute tentative de saboter l'accord de 2015.
Dans ces conditions, Tae Hong Pham, peut-on sauver encore cet accord iranien sur le nucléaire?
Moi, je pense aussi que dans l'état actuel, c'est quasi impossible de trouver un compromis pour sauver cet accord, malgré les efforts du président Macron. Il a proposé un accord plus large. Mais c'est pas sûr que Donald Trump va accepter cette proposition. La Chine, la Russie, l'Iran non plus. Et même entre les Européennes, surtout entre Londres, Berlin et Paris, il n'y a pas de consensus non plus. Donc, surtout pour le moment, on connaît pas vraiment les intentions de Donald Trump. On attend le 12 mai pour voir si il va sortir de l'accord 2015 ou non. Logiquement, pour des raisons politiques intérieures et pour être cohérent avec lui-même, je pense qu'il va sortir de cet accord.
Alors, on parlait tout à l'heure de la Chine et de la Russie. On va y revenir maintenant, Hermine. Ces deux pays sont deux des principaux signataires de l'accord nucléaire sur l'Iran, signé donc il y a 3 ans. Ce qui est étonnant, c'est que Donald Trump ne les a pas mentionnés dans son discours concernant justement l'avenir qu'il entend réserver à ce document.
Oui, effectivement, cet accord était le fruit des dizaines d'années de négociations entre l'Iran et le groupe 5 plus 1, c'est-à-dire les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne. Et dans les discours de M. Trump, il a donné jusqu'au 12 mai, comme vous dites tout à l'heure, aux signataires européens, seulement européens, je cite, pour trouver une solution dans le but de durcir cet accord, sans quoi il menaçait de déchirer définitivement. Alors, s'agit-il d'un oubli ou une stratégie moitié cachée de Trump? J'ai posé cette question à notre analyste, M. Wang Jingtao, qui réside aux États-Unis. On l'écoute.
Que vous a-t-il expliqué?
Ah, il a dit que M. Trump a déclaré depuis le début de l'année que la Chine et la Russie sont les éventuels ennemis des États-Unis. Donc, s'il n'a pas mentionné ces deux pays pour l'avenir de l'accord iranien, il ne pourrait pas être un oubli. Donc, M. Trump est plutôt méfiant vis-à-vis de la Chine et de la Russie dans ce dossier.
Alors, si jamais ces deux pays s'unissent ensemble, y aura-t-il ou pas un danger pour les États-Unis et pour les pays occidentaux?
Oui, toujours selon l'analyste M. Wang Jingtao, il n'y aura pas de danger puisque la Chine et la Russie pourraient certainement agir ensemble pour plusieurs sujets internationaux comme la Syrie, mais en général, leur désaccord est plus profond qu'on puisse imaginer. Surtout, la Russie n'a pas d'amis dans le monde, cela l'empoîtrait les pas partout.
C'est une femme, l'Iran risque-t-il de suivre l'exemple de la Corée du Nord, qui possède maintenant la bombe atomique et peut maintenant négocier d'égal à égal avec Donald Trump?
Je pense que oui, parce que selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a respecté plus ou moins pleinement l'accord de 2015. Mais ils n'ont toujours pas vu les retombées économiques espérées. Donc le retrait des États-Unis de l'accord de 2015 va sûrement inciter Téhéran à suivre la voie nord-coréenne, c'est-à-dire de faire fi des sanctions internationales, des protestations internationales, pour poursuivre jusqu'au bout le programme d'armes nucléaires. Et puis comme ça, il pourrait négocier d'égal à égal avec Donald Trump comme Kim Jong-un. La question est de savoir si l'économie iranienne va survivre à l'embargo économique international ou non.
Tout en se montrant dur vis-à-vis de l'Iran, hein, on vient de le dire, Donald Trump semble plus conciliant envers la Corée du Nord. Alors là aussi, c'est la question du nucléaire. Pour quelle raison?
Je crois que d'abord, Donald Trump aime bien des effets d'annonce. Il rêve d'être le premier président américain à serrer la main du dirigeant nord-coréen, comme on a vu ce matin avec les deux dirigeants de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Donc Trump a complètement changé d'attitude après que Kim Jong-un s'est dit prêt à le rencontrer. Donc le sommet entre les deux personnes aura lieu fin mai ou début juin, dans un lieu n'est pas encore déterminé. Mais cette rencontre, je crois, ce ne sera pas un jeu facile pour Donald Trump, parce que pour le moment, Kim Jong-un a dit qu'il va cesser les essais nucléaires, mais il n'a pas parlé du démantèlement de son arsenal atomique. Donc on attend ce sommet pour voir vraiment les intentions de Pyongyang sur ce problème.
Ouais, sommet très attendu, guetté par beaucoup de pays dans le monde, et bien évidemment ce sera à suivre sur RFI, sur toutes les antennes, toutes les rédactions étrangères bien sûr de Radio France Internationale s'y intéressent. Vous écoutez Accent du Monde.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
$100.
Accent du Monde. Philippe Le Caplin.
Théoufam vient d'y faire allusion, c'était inimaginable il y a encore quelques mois, mais les dirigeants des deux Corées se sont serrés la main ce vendredi. Hermin Rumilak de la rédaction chinoise, cela ouvre une nouvelle ère de paix dans la péninsule coréenne.
Oui, comme vous dites Philippe, qui aurait pu imaginer les images qu'on a vues aujourd'hui, enfin, le 27 avril, ce vendredi, est et sera une date très importante dans l'histoire pour les deux Corées depuis la fin de la guerre dans les années 50. Cette guerre sanglante est soldée par une simple armistice et non un accord de paix. Donc, en fait, la Corée du Nord et la Corée du Sud est actuellement, officiellement, en guerre, en fait. Donc, vous avez dit, sous l'œil attentif du monde entier, le président du Nord-Coréen, M. Kim Jong-un, a franchi la ligne de démarcation militaire qui séparait les deux pays depuis 1953. Il est devenu ainsi le premier président nord-coréen de franchir ce pas. Il a ensuite invité, en tout en souriant, son homologue sud-coréen, M. Moon, à faire la même chose, mais dans le sens inverse.
Ouais, qui semblait un peu surpris. Hein, puis
oui,
finalement, il l'a fait.
Il a eu beaucoup d'humour, en fait, M. Kim, en fait. Et si on sait que les deux pays sont toujours officiellement en guerre, on comprendra mieux que ces images portent réellement de l'espoir vers la paix de ces deux pays, frères ennemis, bien que ce n'est qu'un début.
Donc il s'agit maintenant de travailler sur une déclaration commune.
Ils ont fait une déclaration commune, oui.
Qu'y a-t-il précisément dans cette déclaration?
Alors je cite que les quelques phrases principales puisqu'on n'a pas le temps. Selon la déclaration officielle, les deux dirigeants ont évoqué des points sensibles. Ils ont engagé les deux Corées dès ce vendredi à œuvrer en faveur de la dénucléarisation. Oui, je vais y arriver. Ils promettent aussi qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule. En fait, la Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire. Donc les deux voisins ont indiqué qu'ils chercheraient à rencontrer les États-Unis, peut-être aussi la Chine, en vue de déclarer la fin de la guerre et établir un régime de paix permanent et solide pour la péninsule.
Alors la paix dans la péninsule coréenne va forcément avoir des conséquences géopolitiques pour toute la région.
Bien sûr. Et déjà dans la déclaration commune, on a entendu tout à l'heure, à part les deux Corées, on note que les futurs acteurs du dossier coréen seront les États-Unis et peut-être la Chine. La Russie et les Japon, qui participaient toujours aux négociations de l'accord nucléaire nord-coréen dans l'histoire, sont des grands absents. Donc, selon l'analyste politique, toujours M. Won Jin-tao, c'est déjà un grand changement dans la région. On l'écoute.
Quelle est son analyse?
Alors, il a dit, cette déclaration montre qu'il y a un grand changement dans la situation géopolitique de nord-est de l'Asie. C'est-à-dire, Pyongyang ne veut pas compter sur Moscou et peut-être même pas Pékin, qui est pourtant son allié le plus fidèle depuis toujours. Donc, l'ajout du mot « peut-être » avec la Chine fait que la Corée du Nord se place dans une situation plus active face à la Chine. Donc, le message envoyé à Pékin est très clair. C'est-à-dire, Pékin n'est pas forcément nécessaire dans l'avenir de la Corée du Nord. Et M. Wang Jun-tao a dit aussi que si Kim Jong-un entame plus tard effectivement la réforme économique, il faut qu'elle diminue l'influence de ses deux voisins, c'est-à-dire la Chine et la Russie.
Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. La rédaction chinoise de RFI suit tout cela de très près. Hermin Rumilak. Quant à la rédaction Amérique latine de RFI, cette semaine, elle a largement couvert la crise politique au Nicaragua. Une réforme des retraites a provoqué de nombreuses manifestations de mécontentement et malgré le retrait de ce projet de loi, elle continue ces manifestations car il y a bien d'autres récriminations. Tout d'abord, Raphaël Moran, faisons le point avec vous.
Oui, ça fait plus d'une semaine que plusieurs secteurs de la population sont mobilisés au Nicaragua et tout particulièrement les étudiants. Il y a encore eu des manifestations avant-hier. Comme vous le disiez, Philippe, l'étincelle de ce mouvement, c'est la réforme du système de retraite mal géré, endetté. Le gouvernement de Daniel Ortega, le président, prévoyait d'une part d'augmenter les contributions sociales des salariés et celles des employeurs pour réduire le déficit et aussi de réduire les pensions. Sauf que ce projet de réforme a déclenché des manifestations violentes, des universités sont occupées et la répression de ce mouvement a été très dure, du jamais vu vraiment depuis plusieurs années. Les interventions de police police qui a tiré à balles réelles, ont fait au total 39 morts au minimum, hein, puisqu'il y a plusieurs bilans depuis le mouvement mi-avril.
Et vous avez recueilli un témoignage.
Oui, celui de Ana Quiroz, une militante féministe assez connue au Nicaragua, qui travaille sur les questions d'accès aux soins. Et elle nous raconte ce qu'elle a subi dans une manifestation.
Un groupe de motorisés.
Alors, qu'a subi Ana Quiroz ?
Elle nous raconte qu'elle a été frappée par des membres d'une milice proche du gouvernement sandiniste alors qu'elle manifestait. Et elle demande que le responsable de la répression soit puni. Elle considère que c'est le couple présidentiel qui est responsable de cette répression.
Hein. Je le disais, le président Daniel Ortega a préféré donc retirer ce projet de réforme des retraites, ordonner la libération des étudiants arrêtés lors des manifs. Mais il semble que sa volonté d'apaisement arrive trop tard. Le mouvement social a fait émerger d'autres revendications plus profondes, celle-là.
Oui, cette réforme, en fait, en elle-même, est emblématique de la manière dont le président gère le pays. Il est main dans la main avec le secteur patronal et laisse de côté d'autres secteurs. Et la répression des manifestations, on l'a dit, par des milices pro-gouvernementales, illustre aussi une certaine dérive autoritaire, autocratique du gouvernement Ortega, qui en est quand même à son quatrième mandat.
Alors, ces troubles sociaux peuvent paraître surprenants dans la mesure où Ortega a été réélu confortablement il y a seulement 2 ans.
Oui.
Et le mouvement auquel il appartient, le sandinisme, est très enraciné dans la société au Nicaragua.
Oui, ses années de présidence ont été plutôt calmes. C'est Nicaragua est en Amérique centrale l'un des pays qui souffre le moins de l'insécurité. Il a bénéficié d'une croissance économique dopée par les investissements et les échanges avec le Venezuela avant son effondrement économique. Et finalement, Ortega est accusé par les manifestants de tomber dans les mêmes dérives autoritaires qu'il a lui-même combattu quand il est arrivé au pouvoir, hein, à la fin des années 80, après la dictature d'Anastasia Somoza. Le clan Ortega, puisqu'il est président et son épouse est vice-présidente, ont verrouillé toutes les institutions. Le gouvernement gouverne à coup de décret et ils sont soutenus par des milices armées, on le disait. Donc on verra si le dialogue politique qui s'ouvre bientôt sous l'égide de l'Église permettra de rétablir ce lien avec la population.
Raphaël Moran de la rédaction en espagnol de RFI. Voilà un dossier qui risque de retendre les relations entre le Vietnam et les États-Unis, alors qu'il y avait du mieux depuis plusieurs mois. Il s'agit de l'expulsion de milliers de Vietnamiens d'Amérique vers leur pays d'origine. Théon Pham, pourquoi ces gens risquent-ils l'expulsion vers le pays qu'ils avaient fui à l'époque ?
Alors, les États-Unis ont la politique d'expulser ceux qui ont commis des crimes, appelés des crimes expulsables, en anglais « deportable crimes ». Le problème, c'est que la définition de ces crimes n'est pas claire. Donc, certaines personnes trouvent que leur expulsion n'est pas justifiée et ils ont fait appel. Malgré cela, l'administration Donald Trump veut à tout prix expulser tous ces anciens prisonniers. Donc, elle veut expulser environ 8600 ressortissants vietnamiens. Donc, la plupart ont été emprisonnés pour des crimes commis aux États-Unis.
Et il y a déjà eu des expulsions, hein. 71 Vietnamiens expulsés entre 2016 et 2017 et un rythme qui s'accélère. Pourquoi voilà. Cette politique pose des problèmes avec le Vietnam?
Parce que dans le cas du Vietnam, certaines personnes ont été renvoyées au Vietnam en violation d'un accord signé entre Hanoï et Washington en 2008. Cet accord interdisait l'expulsion des Vietnamiens arrivés avant 1995. Ayant suivi de près ce dossier, le journaliste d'origine vietnamienne Han Ngoc Cu explique cette affaire.
On l'écoute. Alors, quelle est son explication ?
Donc, il dit que le Vietnam n'accepte que recevoir des personnes arrivées aux États-Unis après le 12 juillet 1995. C'est-à-dire la date de la normalisation des liens entre les deux pays, le Vietnam et les États-Unis. Pour ceux qui sont arrivés aux États-Unis avant cette date, même s'ils ont reçu l'ordre d'expulsion du tribunal américain, le gouvernement vietnamien refuse de les répondre.
Encore une chose, la position de Ted Hoyos, qui fut ambassadeur des États-Unis au Vietnam.
Voilà, il a expliqué récemment dans une tribune qu'il avait démissionné l'an passé pour protester contre la politique du gouvernement Trump sur l'expulsion des Vietnamiens, surtout sa volonté de forcer les autorités vietnamiennes d'accepter des milliers de réfugiés qu'Hanoï est réticent à voir revenir dans leur pays. Et puis, il craint que beaucoup de rapatriés finissent par être victime de violations des droits de l'homme dans ce pays communiste.
Merci Deung Pham de la rédaction vietnamienne de RFI. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité.